Et je salue Franck Rosenthal. Bonsoir. Qui nous a rejoint. Bonsoir, expert à grande consommation et commerce. Qu'est-ce qui va changer concrètement dans nos vies, à nous, Français, Européens, avec cette guerre commerciale? Est-ce qu'on va payer plus cher certains produits? Est-ce qu'il y a un risque de pénurie? Quelles conséquences pour notre épargne? C'est le moment de répondre à toutes vos questions avec vous, Franck Rosenthal, et avec Grégory Carré qui nous a rejoint. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir. Mais d'abord, les prix, va-t-on payer plus cher certains produits stars de marques américaines? C'est l'œil de Raphaël. Et depuis ce week-end, Raphaël, il y a trois produits emblématiques aux États-Unis qui deviennent de véritables symboles concernant ces droits de douane.
Oui, bon, je veux dire, le produit des produits, le produit du siècle, l'iPhone, avec un chiffre que je voudrais vous donner, c'est $845. C'est ce que coûterait l'iPhone 16 Pro à fabriquer pour Apple avec les nouveaux droits de douane de Trump. Aujourd'hui, c'est $550, donc ce serait 55% de plus. C'est le Wall Street Journal qui a effectué ce calcul. Alors, on voit l'infographie qui apparaît à l'écran. Ce qui est important, c'est le chiffre tout à droite. Avant, $550, ça passe à 845. Et les différents composants, on a mis des drapeaux pour comprendre à quel point, c'est un peu comme l'exemple du crayon de Milton Friedman dont on a parlé hier soir, tout vient de partout dans le monde. Et ce que disait Bjerkadas, c'était les effets de bord sont extrêmement compliqués à mesurer. Par exemple, le processeur de votre iPhone, il vient de Taïwan, c'est l'entreprise TSMC. L'écran, il vient de Corée du Sud, puisque c'est Samsung qui le fournit. L'appareil photo avec lequel vous prenez vos photos de vacances, c'est Sony, et donc il vient du Japon. Donc là, cet iPhone 16 Pro, par exemple, aux États-Unis, il est vendu $1,100. Si on appliquait la même surcote, ce serait, par exemple, $1,700. Donc on imagine que l'iPhone peut grimper assez fortement.
Mais l'idée de Trump, c'est pas que l'iPhone, justement, soit fabriqué aux États-Unis?
Oui, et d'ailleurs, c'est pas nouveau. J'ai retrouvé un tweet de Trump de 2018. Il aurait pu être publié aujourd'hui. Donald Trump qui a envoyé un message à Apple. Les prix d'Apple pourraient augmenter avec les droits de douane vers la Chine. Il y aura une solution simple, fabriquer vos produits aux États-Unis. Donc, si vous ne voulez pas de douane, vous fabriquez aux États-Unis. Bon, le problème, c'est que le sujet, ce n'est pas forcément le coût du travail par iPhone, ce serait quelques dollars. Non, le problème, c'est les lignes de production qui mettent des années à être mises en place et surtout qui coûtent des milliards. Donc, ce serait extrêmement compliqué. On parlait de substitution il y a quelques minutes. Ben là, la substitution, ce serait assez compliqué à mettre en place.
Et il y a deux autres produits qui sont venus symboliser ces nouveaux droits de douane.
Oui, on en a parlé aussi la semaine dernière. La nouvelle Nintendo Switch, Switch 2, qui a été annoncée la semaine dernière, qui coûtera $450. Sauf que Nintendo, donc là, qui est un géant japonais, a précisé que le prix a été calculé avant les nouveaux droits de douane. Cette console, elle est produite notamment au Vietnam et au Cambodge, là où les droits de douane seront aussi environ, en gros, de 50%. Résultat, Nintendo a dû annuler les précommandes jusqu'à nouvel ordre, sachant que la console doit sortir en juin. Et puis, un autre produit emblématique, c'est la basket Nike. Alors, cette fois, je fais référence à des images qui se multiplient sur les réseaux sociaux, qui sont créées par des intelligences artificielles et qui montrent, voilà, le retour de l'industrie aux États-Unis, une sorte de retour dans le temps, alors avec, je vais dire, une dimension presque chinoise.
C'est Gilles Evans, c'est ça?
Comment? Et, ouais. Et là, la deuxième, voilà, ça, c'est Gilles Evans qui fabrique maintenant ses propres, je sais pas si c'est des Air Force Basket. One ou des Nike. Enfin, c'est des Nike, je sais pas quel modèle exactement. Mais disons que ça semble pas forcément enchanter les Américains, ce type de retour à l'usine.
Ouais, ça enchante pas forcément les Américains. Les répercussions pour nous, parce que les tarifs douaniers, Raphaël, ne concernent que les produits importés aux États-Unis. Mais ça veut pas dire qu'on va être tranquille et ça veut pas dire que ces produits américains-là, on va pas les payer plus cher.
Non, un exemple très simple, l'iPhone, effectivement, si le prix augmente aux États-Unis, Apple, déjà, bon, on va devoir rogner sur sa marge, mais va
les
aussi
pauvres.
Se dire. Oui, mais
ça
déjà,
mais
il y a aussi des coûts pour Apple. Il y a aussi des coûts pour Apple qui sont communs à tous les marchés.
Oui.
On peut imaginer qu'ils vont pas chercher à avoir un iPhone à 1 000 euros en France, en Europe, et à $2,000 aux États-Unis. Donc les consommateurs européens vont probablement aussi devoir encaisser une partie de cette hausse. Et ce qu'on dit pour Apple, d'ailleurs, c'est aussi valable pour des baskets de marque américaine, quand bien même elles seraient fabriquées en Chine et ne transiteraient pas par les États-Unis, même si elles passent en Europe et qu'elles vont directement de Chine vers l'Europe. On imagine qu'il peut y avoir aussi une politique tout simplement de hausse des prix en
fait,
Europe.
En fait, ces groupes vont vouloir lisser les prix. Donc c'est valable, vous le disiez, pour Apple, pour Nike et toutes ces grosses structures américaines. Et ne pas faire payer le poids de ces droits de douane uniquement aux consommateurs américains. Ce sont tous les consommateurs à l'échelle de la planète qui vont payer d'une façon ou d'une autre ces droits de douane. C'est ça qu'il faut comprendre, Franck Rosenthal.
Oui, c'est ce qu'il faut comprendre parce que évidemment, ils vont essayer d'harmoniser ça suivant les différentes zones dans lesquelles ils sont, de manière à ce que l'Europe, ça ne soit pas à métier pris par rapport aux États-Unis, parce que sinon, Ils n'en vendront plus du tout aux États-Unis. Mais il y a deux paramètres qu'il faut prendre en compte. Le premier paramètre, c'est que si on reprend les exemples de Raphaël, on va prendre Nike et on va prendre Apple. De mémoire, les deux ont perdu entre 20 et 25%.
Apple, moins 25% ce soir depuis 5 depuis ans.
Voilà. Et Nike est à peu près à moins 23 ou quelque chose comme ça, quoi, en fait. Donc, vous avez les actionnaires de ces entreprises qui vont réagir. Parce que forcément, quand ils perdent autant de valeur, ils vont réagir. Alors, il peut y avoir l'arbitrage sur les marges, on en parlait. Mais ce n'est pas parce que vous allez répercuter vos coûts et les taxes que vous, parce que vous importez les produits, on parlera après de l'option, les produire aux États-Unis, c'est pas parce que vous les répercutez que vous avez un consommateur qui suit. Parce que la demande, elle va peut-être évoluer aussi.
C'est-à-dire quoi, les consommateurs pourraient se détourner de ces marques-là? Mais il y a des marques qui sont devenues, enfin pardonnez-moi, mais Apple, c'est quasiment devenu incontournable aujourd'hui.
Oui, alors c'est devenu incontournable, mais vous avez quand même des marques qui sont concurrentes. Vous avez Google qui produit des choses, vous avez Samsung qui produit des choses, voilà, qui est le numéro 2. Vous avez d'autres. Alors, on peut imaginer que les Chinois, en tout cas, ils ne pourront peut-être pas aux États-Unis, avec les droits de douane, s'ils sont supérieurs à plus de 100%, importer des concurrents de l'iPhone. Mais par contre, quand ils vont aller sur l'Europe, sur l'Asie, enfin, etc., ils ne vont pas se priver d'être compétitifs par rapport à Apple. Donc, vous avez à voir ce problème de marge, vous allez avoir ce problème de rémunération des actionnaires et vous allez avoir ce problème d'harmonisation des prix avec des concurrents qui vont évidemment profiter de la situation. Donc ils vont être dans une situation qui est extrêmement compliquée.
Et une question très pratique, juste Franck Rosenthal, Romain qui s'interroge, est-ce que les prix des téléphones vont augmenter du simple au double? Comment ça va se répercuter chez nous en France? Est-ce qu'on peut y répondre là aujourd'hui?
Alors moi je ne crois pas. Je crois pas parce que je pense qu'il y aura des arbitrages. L'arbitrage, il sera sûrement pas ce qu'on a vu dans les caricatures où on va produire demain des iPhones aux États-Unis.
C'est pas possible de toute façon.
Alors d'abord, c'est pas possible. C'est pas possible dans des délais aussi courts. Ouais. Ça, c'est la première chose.
Il faudrait combien de temps?
Il faudrait au moins, je sais pas, 3 ans, 4 ans, 5 ans.
Milliards de dollars.
Tim Cook avait expliqué qu'il n'avait toujours pas, juste pas le savoir-faire. Il a toujours dit qu'il n'est pas en Chine pour
je
le coût du travail.
C'est juste que
Apple n'a pas, ou les grandes marques de la tech n'ont pas le savoir-faire aux États-Unis
c'est
pour
ce
fabriquer.
C'est ce qui se passe souvent. Hein,
la deuxième chose qu'on ne dit pas, c'est que les États-Unis, le dernier taux de chômage, il est à 4%.
Ouais.
Et donc 4%.
Plein emploi, il n'y a plus personne.
Exactement. Vous êtes en situation de plein emploi. Et 4%, c'est un chiffre qui touche les 50 États américains. Ça veut dire que vous avez des États qui sont aujourd'hui à 2,5, voire 3% de
chômage. Ils sont obligés de faire venir des Mexicains.
Voilà. Et donc, vous arrivez exactement au point où je voulais arriver. C'est-à-dire que, en fait, le seul moyen pour avoir, pour pas avoir de pénurie sur le travail, en fait, ça serait de faire l'immigration. Or, évidemment, c'est le dernier moyen qu'ils vont employer. Donc, il y a une pénurie de travailleurs. C'est-à-dire faire croire que demain, on va ouvrir des industries et que... Alors, il faudrait en plus que les salaires soient compétitifs. Les salaires ont beaucoup monté aux États-Unis.
Grégory Carré, je reprends l'exemple des téléphones portables qui est très parlant et on a beaucoup de questions ce soir là-dessus. Une des ripostes qui est évoquée par l'Union européenne, c'est d'aller taxer les services numériques. Et c'est d'aller taxer les GAFAM aussi. Dans les GAFAM, il y a Apple. Donc, si je comprends bien, si je fais le calcul, ça veut dire que le consommateur européen, il va payer d'une certaine façon les droits de douane américains, mais de l'autre... il va payer aussi les droits de douane de riposte imposés par l'Union européenne. Donc, on va payer deux fois.
Alors, oui, de toute façon, les droits de douane, c'est payé par le consommateur. Donc, les droits de douane que Donald Trump veut imposer, c'est les consommateurs américains qui vont le payer. La question qu'on se pose avec l'iPhone, c'est qu'est-ce que... Bien sûr, on sait que les consommateurs ne peuvent pas suivre. On sort de 2 années d'inflation en France record. On a bien vu qu'il y a eu des compressions... Pas forcément, on a eu une flambée de l'énergie, une flambée de l'alimentaire. C'est pas forcément dans ces secteurs-là que ça a le plus réduit, c'est dans d'autres secteurs qu'on payait et qui continuent de payer très très fortement. Moi qui travaille dans la presse, on a bien vu un recul très très marqué de la presse et des postes de loisirs. Donc les Américains vont probablement diminuer leur consommation. Pour l'iPhone, peut-être qu'ils vont effectivement très fortement diminuer la consommation d'iPhone. Alors, Apple, je ne pense pas qu'il va vouloir diminuer son volume d'achat, donc peut-être qu'il va chercher à l'écouler. Donc ça ne va peut-être pas forcément faire augmenter les prix en Europe.
Donc ruiner sur ses marges, du coup, c'est ça?
Il a besoin. Oui, les deux ont besoin. De toute façon, c'est un compromis entre le prix et le volume. Et puis, de toute façon, Apple n'est plus leader du marché depuis très longtemps. Hein. C'est Samsung qui est leader, vous avez Huawei qui est très fort. Mmh. Et donc, les Américains peuvent aller aussi vers En France, hein, le prix moyen d'achat d'un smartphone, c'est 200 euros. Donc vous voyez que les iPhones, c'est une petite niche, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Après, taxer les GAFAM, c'est effectivement, faut voir si c'est Google, tout est gratuit. Google.
Donc ça va se traduire comment alors quand on dit taxer les GAFAM, taxer les services
numériques? C'est assez compliqué. Ça peut être quoi? Netflix, ça peut être Amazon Prime, les programmes Amazon Prime, donc indirectement.
Ça peut être tous les logiciels aussi, alors, Microsoft, etc.
Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à Netflix. Quand on dit taxer le cloud, aujourd'hui, c'est comme si on dit on va taxer l'électricité, l'énergie pour les entreprises. C'est-à-dire que toutes les entreprises ont des frais de stockage numérique et donc c'est tous les prix, ce n'est pas du tout uniquement l'abonnement Netflix.
Non. D'accord, mais alors en tout cas, pense que l'Europe, la question que l'Europe va se poser, c'est si on augmente les taxes, on augmente les prix. Très probablement, les consommateurs vont avoir du mal à suivre. On l'a vu depuis 2 ans. Et en Europe, comme aux États-Unis, la consommation, c'est le premier soutien de la croissance. 80% de la croissance est portée par les consommateurs. Donc, vous ne pouvez pas être gagnant-gagnant. Si vous augmentez trop le signal prix, vous allez perdre en volume. Et ça veut dire
que
probablement...
Si on augmente les deux produits, les deux gammes de produits qu'on importe des États-Unis, que ce soit l'énergie ou les services numériques, ce sont les consommateurs européens qui vont les payer.
Ouais, là,
c'est pour ça que c'est des réponses qui sont des réponses à considérer. Hein.
Et d'ailleurs, j'en reviens sur la situation d'Apple. Edwige, preuve qu'on n'est pas très serein, même pas serein du tout du côté d'Apple, l'entreprise a fait décoller plusieurs avions en urgence d'Inde, c'est ça?
Oui, on a vu ça, c'est qu'il y a eu 5 avions cargo.
Oui. Rempli
d'iPhone, qu'ils ont, en fait, pendant 3 jours, ils ont stocké. Ils ont bourré leur avion cargo et ils les ont fait atterrir aux États-Unis.
C'est quand même lunaire.
La veille de l'instauration des droits de douane.
Mmh. C'est lunaire.
C'est lunaire, mais c'est assez efficace, c'est pragmatique.
Ça rappelle la pratique des masques.
Mais ça en dit long aussi sur l'inquiétude.
Et les consommateurs aussi se précipitent aux États-Unis pour acheter des iPhones.
Mais tout le monde.
J'ai une question.
Juste un point que je trouve très paradoxal dans tout ce qu'on dit depuis plusieurs jours, c'est que le point de départ de tout ça, et même l'élection de Donald Trump était basée sur le fait qu'il y avait une inflation extrêmement forte aux États-Unis et qui pénalisait notamment les lecteurs du Michigan ou de Detroit. Et on se retrouve dans une situation où on ne fait que parler d'inflation et ça va se répercuter auprès du consommateur américain. Donc il y a un côté arroseur-arrosé, on a un petit peu de mal
à cause de Sleepy Joe, d'ailleurs. C'était à cause de Sleepy Joe.
Peut-être.
Alors ça vient quand même d'une contradiction qui était majeure. Alors il la met en application, cette contradiction. Mais la contradiction a été majeure pendant la campagne de dire on va lutter contre l'inflation et on va mettre des taxes douanières très très fortes. Oui. Parce que, évidemment, c'est très contradictoire.
Bien sûr.
Et le problème, c'est que maintenant, il le réalise, quoi, en fait.
Oui, bien sûr.
Je ne sais pas s'il le réalise, mais il va peut-être le réaliser.
J'ai une question de Mehdi, justement, qui s'interroge : qui perdrait le plus entre le consommateur européen ou américain ?
Alors, je crois que le consommateur américain, il est très exposé et beaucoup plus qu'on le pense à l'heure actuelle. D'abord parce que l'inflation a été assez forte. Et vous le rappeliez, en France, c'était assez concentré sur 2 sujets, c'est-à-dire l'énergie et l'alimentaire. Aux États-Unis, c'était une inflation qui portait aussi sur les services, notamment. Et l'inflation, elle était assez forte. Donc, je pense que le consommateur américain, il va le payer parce que il y a beaucoup de produits qui sont importés, ne serait-ce que d'Europe, où le déficit commercial, il est très important. Et d'ailleurs, c'est ce qui a donné lieu au 39%, au fameux calcul des 39% pour la réciprocité, parce qu'on est parti du déficit dans le ratio du déficit commercial des États-Unis par rapport à l'Europe pour arriver à ce ratio de 39%. C'est pas les taxes qui sont imposées. C'est-à-dire
c'est le calcul.
C'est le calcul qui est simpliste.
Pour le consommateur européen, ça dépendra de la riposte aussi européenne, des droits de douane, éventuels droits de douane qui seront appliqués en retour. On a une question de Sébastien qui dit : est-ce que la plateforme Uber, qui est une multinationale américaine, sera impactée ?
Bien sûr.
Bien sûr, vous dites là.
Moi, j'ai posé la question à la directrice générale d'Uber France et elle dit non, pas du tout. Parce qu'en fait, tout est organisé, tous les marchés sont indépendants, organisés sur le marché,
localement.
Le marché français.
Je pense que il y aura un impact mondial sur Uber.
Je ne vois pas comment, en fait.
Ouais. Bah, si, parce que tout est piloté depuis les États-Unis.
Oui, mais c'est pas des produits industriels, c'est des services.
Oui, c'est des services, mais le service Netflix, c'est un service.
Je vois pas pourquoi Uber en France serait impacté par les droits de douane imposés par Trump aux États-Unis sur les produits importés par les Américains.
Et Netflix.
Non, mais c'est la question de la riposte.
Alors,
en cas de riposte de l'Union européenne.
Qu'est-ce qu'on va taxer concrètement?
Alors justement, venons-en à la riposte, parce que l'Union européenne est en train de préparer cette fameuse riposte aux droits de douane. Le 15 avril, il y aura une première riposte, et puis le 15 mai, une seconde. Réponse qui devrait être apportée en début de semaine prochaine, d'après un porte-parole de la Commission européenne. On a déjà une liste qui nous est potentiellement fournie. Produits agricoles, soja, volaille, riz, plusieurs fruits, bois, moto, produits plastiques, équipements électriques, produits de maquillage, ça ce sont les produits américains qui pourraient être taxés en représailles si les négociations n'avancent pas. Et on a une question de Robert, parce qu'encore faut-il que les États membres se mettent d'accord, qui dit qui va décider des taxes sur les produits américains, donc des taxes que nous, consommateurs
français, la Commission européenne,
comment ça va se jouer entre les différentes filières? Parce que par exemple, le bourbon.
Contrôle démocratique.
Mais alors attendez, parce que je vous prends un exemple. Par exemple, le bourbon. Le bourbon sera exempté de ces fameux droits de douane supplémentaires.
Oui, parce que ce n'est plus dans la liste.
Voilà. Il n'est plus dans la liste, mais pourquoi? Qui décide de ça? C'est le lobby des secteurs?
C'est pour protéger le bourbon, peut-être. Le cognac, je ne sais pas.
Les vins spiritueux français.
C'est pour ça.
C'est une anticipation.
C'est exactement pour ça. C'est-à-dire que le bourbon était sur cette fameuse, la première liste qui a eu lieu, c'était en 2011. Et donc, en fait, ils ont pris tout de suite cette liste parce que ça permettait à l'Europe de répondre très vite, sans avoir à se concerter. Parce que c'est du ressort, c'est une compétence de la Commission européenne. C'est pour ça que ça ne peut pas être... Alors après, on va voir ce qui se passe. Mais normalement, ça ne peut pas être les Italiens qui décident de négocier, de mettre telle taxe, tel droit de douane, ou les Français, ou les Allemands, etc. C'est la Commission européenne qui va décider ça. Mais la Commission européenne,
c'est nous, les
États. Enfin, il faut quand même voir derrière, il y a Emmanuel Macron qui va dire « je voudrais
ceci ». C'est le Conseil européen qui donne mission à la Commission européenne.
Oui, bien sûr. Donc ce sont les politiques qui vont décider.
Ce sont les politiques qui décident, et il n'y a rien d'arbitraire là-dedans. Il y a une discussion qui se fait, qui est une discussion...
Il n'y a rien d'arbitraire, ce sera peut-être l'arbitraire, mais bon...
Je m'entends quand je dis ça. Ce n'est pas antidémocratique, ce sont les conseils, le Conseil européen qui décide, avec des nuits de discussions, de négociations, et mission à la Commission européenne, qui n'a pas un pouvoir discrétionnaire sur ça, de dire tel produit ou tel produit, évidemment.
Grégory Carré, on a beaucoup de questions ce soir qui nous arrivent de nos téléspectateurs. N'hésitez pas à continuer à flasher le QR code. Stéphane qui nous demande, est-ce que les droits de douane peuvent entraîner une pénurie de certains produits, selon vous?
Alors, nous qui testons beaucoup de produits, on n'a pas beaucoup de produits américains dans notre panel de produits testés. Donc, sur des produits finis, non, il y a assez peu de produits. Hein. Je ne sais pas combien.
Les Harley Davidson.
Voilà, les Harley Davidson. Nous, on ne les teste pas.
Une pénurie insurmontable de Harley Davidson.
Non, le soja.
Comment va-t-on faire?
Alors, le soja, l'ANSES nous a dit qu'il fallait faire attention de toute façon.
Oui, mais c'est dans l'alimentation du bétail. Ouais. C'est pour ça que c'est important.
Voilà, les tourteaux de soja, mais donc c'est très indirect. C'est vraiment sur des coûts très indirects. Des pénuries à court terme. A priori, c'est quand même une toute petite part, nous, pour la France, hein, de ce qu'on consomme. Pour les Américains, c'est la même chose. Je pense que les produits français, ça ne doit pas être extrêmement important. Donc, a priori, les conséquences à très court terme, c'est plutôt pour les consommateurs américains. Pour les consommateurs européens, ce sera dans un deuxième temps par effet de rebond. Dans un premier temps, c'est plutôt l'épargne, hein, d'ailleurs, sur ceux qui ont de l'épargne financière. C'est peut-être là-dessus qu'ils vont constater qu'il y a eu un peu des reculs ce week-end. Mais pour les consommateurs, on regarde, on est vigilant, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'indication qu'il y ait des pénuries à craindre.
Alors justement, on a beaucoup de questions sur l'épargne. On va y revenir dans un instant. Jusqu'où iront les répercussions de cette guerre commerciale? Edwige, question de Thomas. Est-ce que ça pourrait avoir des répercussions sur l'immobilier? Est-ce que l'immobilier va baisser?
Ah ben, l'immobilier, ça dépend des taux d'intérêt. Donc là, on rejoint la question de l'inflation, on rejoint la question de la baisse du dollar
et la confiance,
la récession. Donc normalement, les taux doivent continuer à baisser. En tous les cas, c'est ce qu'a dit la présidente de la Banque Centrale Européenne. C'est ce qu'avait dit aussi le président de la Fed, la Réserve Fédérale américaine, Jérôme Powell, qui est sans doute le seul opposant aujourd'hui à Donald Trump. Mais maintenant, il va être très vigilant pour savoir, puisqu'on est, vous savez ce qu'on appelle une stagflation, on va peut-être vers une stagflation, c'est-à-dire un peu vers un début de récession et avec une inflation. ce qui est un phénomène économique relativement rare. Et là, ça va être très difficile à piloter, parce que si vous baissez les taux pour booster l'économie, à ce moment-là, ce n'est pas bon pour l'inflation. Mais si vous montez les taux pour casser l'inflation, ce qu'avait fait la Banque Centrale Européenne il y a encore très peu de temps, ben à ce moment-là, c'est très mauvais pour l'économie et ça nourrit la récession. Donc vous voyez, ça va être un jeu très compliqué et l'immobilier dépend beaucoup des taux d'intérêt.
Avec beaucoup d'incertitudes à cette heure.
Mais attention, c'est l'immobilier ouais. En Europe. Ouais. Normalement, la Banque Centrale Européenne a dit que, normalement, parce que là, c'est tout nouveau, a dit qu'elle continue à baisser ses taux d'intérêt.
Alors, je ne sais pas qui sera à répondre à la question suivante. Il va falloir une boule de cristal. Est-ce que les taxes de Trump vont durer longtemps?
elles vont durer jusqu'à temps. Il y a trois solutions. Soit le Trump réussit son pari, c'est un vrai pari, et à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi il reculerait. Soit il se casse la figure, et à ce moment-là, il va être obligé de reculer parce que l'Amérique va rentrer dans une récession profonde et il risque de déclencher une crise qui est comparable à la crise de 1929. Hein. C'est ce qui risque de se passer si jamais son pari n'est pas réussi.
Il y a Michel-Édouard Leclerc, Franck Rosenthal qui disait ce matin que c'est un chamboulement de l'ordre mondial.
On met tout à zéro.
Et qu'il faudra 10 ans pour reconstruire un jeu commercial international. Vous partagez son analyse?
Non, je ne partage pas du tout cette analyse parce que je pense que c'est absolument impossible de faire des prévisions à 10 ans actuellement. Donc rien que pour ça, il y a 10 jours, on n'aurait pas dit ça. Donc avoir une vision sur ce qui va se passer dans 10 ans, et puis moi je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que je pense qu'il va se passer dans les jours et dans les semaines qui viennent suffisamment de choses pour qu'il soit amené à reculer. C'est-à-dire que pour le moment, il est dans une situation de déni.
Il ne peut pas reculer.
Non,
mais on espère tous qu'il va reculer.
Il va être obligé.
D'un point de vue
politique. Non, mais à ce moment-là, je veux dire, non. Il a déjà.
D'un point de vue politique, économique, effectivement, ce serait rationnel qu'il recule, mais après, on connaît aussi la personnalité très imprévisible de
Donald. S'il envoie son pays dans le mur. Vous savez, il y a des millions, parce que là-bas, le chômage, ils n'ont pas la couverture sociale française.
Quand est-ce qu'il y aura la répercussion? Mais quand est-ce qu'il y aura la répercussion?
Elles existent déjà. Vous vous souvenez, JP Morgan, ça avait commencé, JP Morgan, aux États-Unis en 2008, si mes souvenirs sont bons.
Lehman Brothers.
Ouais. Ça avait commencé à l'été 2007, l'été 2007, 2008, tous les cartons étaient sur le trottoir, tout le monde dehors. Hein. Ouais. C'est radical. Et ça peut
parce qu'il y avait la crise, justement, des subprimes, c'est de la crise dans l'immobilier.
Alors, en fait, moi, quand je parle de recul, c'est évidemment pas un recul assumé. Il ne va pas l'assumer parce qu'il ne va pas perdre la face. Par contre, le poids de la consommation dans l'économie américaine, il est à 70%. Donc, c'est un poids qui est absolument considérable. Et donc, s'il y a des effets d'inflation, et il va y en avoir, vous ne pouvez pas maintenir le niveau de la consommation au niveau auquel il était. Et en plus, il y a quand même une chose qui est absolument incroyable, c'est qu'on a l'impression qu'il continue d'être en campagne électorale. C'est-à-dire, si vous écoutez, il continue à dire exactement ce qu'il disait en octobre, en novembre, à parler de Biden. Il n'est plus là, Biden. Il n'est plus du tout là.
Et en même temps, on ne peut pas lui reprocher une chose.
C'est qu'il même
dit, mais il dit ce qu'il a annoncé. Il a annoncé pendant sa campagne présidentielle.
Pourquoi je dis ça? Parce que il a encore dit le week-end dernier que l'économie américaine était bien malade. Alors certes, elle est très endettée, mais la croissance du PIB aux États-Unis en 2023 et 2024 était bonne, pratiquement 3% chaque année. La bourse en 2023 et 2024 aux États-Unis, ils ont fait deux années successives sur le S&P 500 qui était supérieur à 20%. Bah, je pense qu'aujourd'hui, tous les actionnaires américains signeraient pour une troisième année qui serait supérieure à 20%. Ah bah oui. Donc une économie qui est bien malade, quand vous avez une croissance qui est quasiment trois fois supérieure à l'Europe.
Mais lui, il dit qu'il faut un traitement de cheval, un traitement choc pour soigner le patient, bah oui. et puis ce sera efficace.
Mais c'est bien ça le problème.
Faible. Ayez confiance.
Ne soyez pas stupide, voilà. Ne soyez pas faible.
Oui, mais quand il est en compétition dans une campagne électorale pour gagner, évidemment, ce discours-là, il est plutôt porteur. Mais il a gagné. Et il faisait comme s'il n'avait pas gagné, qu'il continuait d'être en campagne électorale.
Ce qu'on peut dire quand même, alors pas à 10 ans, je suis d'accord avec vous, ça n'a pas beaucoup de sens de dire ça, ça veut dire que c'est dans longtemps. C'est que quand même, plus rien ne sera comme avant. Il s'est passé quand même quelque chose. Il s'est passé cette, je mets bien des guillemets, cette trahison des États-Unis vis-à-vis de ses alliés, notamment vis-à-vis de l'Europe. Il s'est passé cette brutalité qu'on ne connaissait pas.
La confiance est rompue.
La confiance est rompue. Donc, on sera quand même dans un monde nouveau. Il y aura un ordre nouveau. Ça, c'est sûr. Alors après, comment il sera ?
Moi, je suis. Et puis, il y a une chose.
J'ai pas ma boule de cristal.
Il y a une chose qui est quand même tout à fait étonnante. C'est ce que disait d'ailleurs Jacques Attali tout à l'heure. C'est pas une crise structurelle. C'est une crise qui a été déclenchée politiquement.
C'est une crise
politique. Volontaire. Mmh. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que c'est comme un gamin qui casse son jouet. C'est exactement ça.
Je continue avec les questions de nos téléspectateurs qui arrivent et qui sont une nouvelle fois très nombreuses. Rodrigue, sur les leviers d'action, que peut-on, nous, faire consommateurs ? Est-ce que le boycott des produits américains aurait un effet ?
Okay. Alors, pas des produits américains, des entreprises éventuellement américaines. Parce que des produits américains, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, en tout cas, sur nos marchés.
Il y a Coca-Cola, il y a McDonald's, il y en a pas mal.
Ah oui, mais sauf
que... Mais c'est produit en France.
Oui, c'est ce que j'ai essayé de dire.
Mais alors, ces marques-là pourraient pâtir pour le coup.
Excusez-moi, ce que je voulais dire, des entreprises américaines, Coca-Cola produit effectivement localement, McDonald's aussi. Donc, il pourrait y avoir des campagnes dans ce domaine-là, mais ce ne seraient pas des produits américains. Donc, ce ne seraient pas directement les ouvriers américains qui seraient concernés. Écoutez, je ne sais pas. Donald Trump a l'air tellement particulier. On ne sait pas tellement quel ressort peut jouer sur lui. Et moi, je pense plutôt que c'est le consommateur américain, si vraiment les conséquences sont dures, parce qu'il n'y a pas d'amortisseurs sociaux quand même aux États-Unis, d'amortisseurs sociaux comme on peut avoir chez nous. Une crise assez violente avec des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois, ça pourrait être très violent.
Donc et là, c'est lui qui a la clé de cette crise, c'est le consommateur américain, le citoyen américain.
Oui. Mais de toute façon, je pense qu'il surveille sa cote de popularité, qui est déjà en train d'atteindre des niveaux assez bas, apparemment, des scores de popularité assez inédits aussitôt dans un mandat. Et donc, c'est probablement là-dessus qui va changer, et puis il est capable de changer du tout au tout sans jamais le reconnaître. Mais
on avait un fervent défenseur avant de Donald Trump ici sur ce plateau. Je vous entends pas beaucoup prendre la défense de Donald Trump ce soir, Charles.
Il est sous le choc.
Il est sidéré.
Je suis libéral, et donc quand on me parle de droits de douane, de protectionnisme, etc., je suis un peu sceptique. Donc je demande à voir. Après, quand j'entends certains le critiquer, alors que ce sont les mêmes qui critiquent le libre-échange et l'économie libérale, je reste songeur aussi. Toute la gauche française le critique, alors qu'elle ferait ça. En réalité, si elle était au pouvoir, elle imposerait ces mêmes droits de douane et penserait de manière illusoire qu'on pourrait se mettre à fabriquer des machines à laver et des t-shirts sur le territoire français. Ça n'est pas ce que j'aime le plus chez ce personnage.
Je
suis un peu comme certains soutiens de Trump aux États-Unis qui commencent à taper du poing sur la table et se demandent ce qui se passe.
Il va peut-être céder sous la pression de Charles
Arsini. Oui, bien sûr.
Son grand défenseur en France.
C'est sûr. En l'occurrence, il défend. J'ai vu qu'il tweetait pour Marine Le Pen, etc. J'ai pas la même notoriété. Mais non, je suis plus libéral que Trump. Voilà.
Une question, on en parlait tout à l'heure. Là aussi, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. Cette crise, c'est Fabrice qui la pose. Cette crise va-t-elle avoir des conséquences sur notre épargne ?
Ah oui, sur l'épargne financière, en tout cas, très rapidement.
Attention, il faut faire attention de ne pas semer la
panique. Il y a plusieurs épargnes. Hein.
Attendez.
Semer la panique. Voilà. Ça dépend à quelle échéance vous parlez.
Oui, tout à fait.
Si, il faut le dire, les Français vont être ruinés.
Oui, non,
mais voilà. Si vous vendez tout demain,
il faut se précipiter à la banque pour retirer ses économies.
Il faut faire comme les Allemands.
Vous la mettez en espèces sous votre matelas.
C'est vrai que
vous avez 24 heures pour le faire. C'est une information BFM TV.
Vous ne pourrez pas vous reconvertir en conseiller, Charles Consigny.
Une grande partie de l'épargne française, elle n'est pas elle est une épargne française mise dans des obligations d'État et qui ne présente aucun danger. Aucun danger.
En un mot,
franchement, il n'y a pas de. Pour l'instant, il n'y a pas de souci parce que il y a la question de savoir si vous vendez ou pas vos actions, si vous en avez. Enfin, il ne faut surtout pas les vendre, vous les gardez. Puis voilà.
Même l'assurance vie.
Merci beaucoup, Edwige. On va s'arrêter là avec ces droits de douane qui entrent en vigueur à 6h du matin, heure française. On en parlera demain soir. Bonne soirée et à demain.